On continue? Donc voilà, on passe du chapitre 2, création, tout était très bon, à notre monde actuel. Alors voilà, t'as dit quoi? Oups, voilà, exactement, oups. Pour nous donner peut-être un aperçu, en Suisse dernièrement, il y a, excusez-moi, voilà, je lis un peu ce qui se passe en Suisse maintenant, quelque chose comme 1500 esclaves modernes qui étaient mis en avant, en Suisse. En Suisse, dans un pays développé normalement. Et le documentaire disait, ce n'est que le haut de l'iceberg. Effectivement, ma mère qui était infirmière, allait parfois soigner des personnes dans les quartiers riches de Genève. Elle disait, mais dans ces quartiers riches, il y a des esclaves. Des personnes à qui on a retiré leur passeport et qui sont prisonniers à Genève. Et c'est un problème qui existe à d'autres endroits. Il y a beaucoup de Philippins qui sont en danger actuellement. Il y a une qui était employée à Riyad et qui a commis le malheur de laisser un meuble de luxe au soleil. Et pour punir leur employé, les patrons l'ont attaché à un arbre en plein soleil à Riyad pour lui montrer que le soleil, ça fait mal. Et on voit que on n'est plus dans cette vision du travail qu'on vient de juste de voir, n'est-ce pas? Où c'était bon, l'harmonie à développer, mais où c'est devenu une manière d'écraser, de dominer, de mépriser. Et effectivement, voilà, je ne vais pas vous faire le parcours du chapitre 3 de Genèse qui s'est passé, mais au cœur de cela, en fait, hein, c'est qu'on a dit à Dieu, dégage. On ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi. Ceux qui vont décider maintenant, c'est nous. On ne veut plus que ce soit toi qui dises ce qui est bien et ce qui est mal, mais ceux qui vont décider maintenant ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est nous. Et à cause de cela, la création a été maudite. Pas parce que Dieu prend plaisir à faire du mal, mais simplement, vous prenez n'importe quelle prise ici, les images que j'ai utilisées, mais vous la débranchez et ça s'arrête, n'est-ce pas? Ça s'arrête. Ça se détruit, ça ne sert plus à rien. Et c'est comme ça qu'on se sépare de celui qui est à l'origine de la vie et de la bénédiction. Et heureusement que Dieu ne nous laisse pas simplement dans cette pénibilité du travail. Dieu nous apprend au final, et le récit biblique nous apprend à vivre au sein de cette pénibilité. Je propose de prendre quelques passages dans l'Ecclésiaste. Et on va introduire avec la lecture des trois premiers versets du chapitre 1. Et voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Donc, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Ça commence de manière bien pessimiste, a priori, n'est-ce pas? Vanité des vanités. Avec cette question qui est très désespérante, je trouve. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Qu'est-ce qui nous reste, franchement? Qu'est-ce qui nous reste? Mais l'auteur, je ne crois pas qu'il est pessimiste, mais il nous invite à réfléchir de la peine qui se donne sous le soleil. Autrement dit, l'auteur réfléchit à notre réalité, à la vie sous le soleil, la vie sur cette terre, la vie après la rébellion, après la séparation. Comment vivre? Comment conduire sa vie dans cette réalité qui est la nôtre et qui a changé depuis Genèse 1 et 2? Et il veut être réaliste dans ce monde qui est marqué par la peine, par le travail, qui est devenu pénible par le labeur. Et voilà, il nous amène dans sa réflexion, il nous entraîne dans sa réflexion. Voilà ce qu'il dit, je continue à partir du verset 3, je le reprends. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant, ainsi va le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où il coule, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir. et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau ?» Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé. Ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. Donc l'auteur nous entraîne ici dans son observation du monde, observation de l'homme, de la vie humaine, des relations et de la nature. Et il nous place ici face à des cycles sans fin, n'est-ce pas ? Le vent qui tourne, le soleil qui se lève, qui se couche, qui se lève, qui se couche, ça ne s'arrête pas. Et en fait, il nous amène à cette réflexion, en fait, de rien on peut dire « c'est achevé ». Absolument rien. On peut dire « c'est fini ». Et quelques illustrations. Hop, ah oui, ça c'était, voilà. Ici, ça c'est Versailles. Hein ? Ouais, effectivement. C'était construit pour quoi, Versailles ? Exactement. Et pas pour que des paysans aillent se balader avec des appareils photo, n'est-ce pas ? Un lieu pour célébrer le pouvoir qui va durer toujours et qui a cessé. N'est-ce pas ? On a une maison, et quel est le problème quand on achète une maison ? Il y a toujours quelque chose à faire, n'est-ce pas ? Ça ne s'arrête jamais. On peut se dire une fois, ça y est, cet aspect est fini, mais on voit qu'il y a un autre truc qui commence à casser, et il faut recommencer. Le pont de Gênes, été 2018. Ce qu'on construit se détruit. Même chose pour notre jardin, même si ça, ce n'est pas notre jardin, hein, mais voilà, n'est-ce pas ? On a beau désherber, on revient 2 semaines après, on n'a rien fait, on dirait, n'est-ce pas ? Ouais, mais il faut toujours recommencer. Et on a beau construire, créer, produire quelque chose, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour faire encore mieux. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais même là, ça a été une copie d'un autre château français, d'ailleurs. Mais autrement dit, en fait, l'auteur nous dit « vanité des vanités », non pas pour nous dire que rien n'a de la valeur. Mais ce terme de vanité, en fait, c'est plutôt... Vous savez, il fait froid. Et quand vous parlez dehors, il y a de la fumée qui sort, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui se passe quand elle est sortie ? Elle s'évapore tout de suite, elle disparaît. C'est ça, cette vanité. En fait, à peine ça arrive que ça part. Donc ce n'est pas que ça n'a pas de valeur, que c'est nul, que ça ne sert à rien, mais c'est que ça, tout disparaît. Tout passe. Tout passe, comme nos exemples ici, n'est-ce pas ? La jeunesse, ça passe. La beauté, ça passe. Même les belles Ferrari, ça passe. Le succès, ça c'est toujours intéressant, je trouve, de voir les grandes actrices qui étaient adulées ou les grands acteurs, chanteurs, chanteuses. Ça passe, n'est-ce pas ? Et il y en a actuellement, ils s'amusent à faire le avant-après. Hein ? L'actrice quand elle avait 20 ans, l'actrice maintenant qu'elle a 50 ans. Et c'est pas toujours très sympathique de le faire, mais c'est vrai qu'on voit, tout passe. Les félicitations, ça passe, n'est-ce pas ? Et les critiques négatives, ça aussi, heureusement, ça passe. Tout passe. Et même le friperie passe. On va tous au même endroit. Rien ne demeure. Absolument rien ne demeure. Et les cycles de la nature continuent même après notre mort. Et cela, nous dit l'Ecclésiaste, est vrai pour notre travail, pour notre activité, qu'elle soit rémunérée ou pas. Tout passe. On a beau faire une prédication, il faudra toujours en refaire une autre. Et on sait qu'en fait, même sur les mêmes sujets, il faudra en refaire et en refaire. On vend des instruments, mais ils vont se péter et il faut en revendre. On est soigné, mais ce n'est pas pour autant que c'est fini. On a à nouveau besoin d'être soigné et encore soigné et encore soigné. Tout passe. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? La réponse est quoi? Rien. Il reste rien. Il reste rien. Comment? Ça peut être démoralisant, effectivement. Mais c'est notre réalité. C'est la réalité de notre monde qui est marquée par l'éloignement de son Créateur. Et dans tout ce que nous entreprendrons, il y aura toujours ce goût d'inachevé. Cette frustration de ne pouvoir jamais dire « ça y est, j'ai fini, c'est complet ». Et le travail est devenu pénible justement, parce que son produit ne dure pas. Et on doit vivre là-dedans. Un des aspects de la pénibilité du travail, c'est que son produit ne dure pas. Et c'est avec cette réalité qu'on doit justement apprendre à vivre. Et alors, notre auteur s'est lancé dans l'exploration de la vie marquée justement par cette vanité, par le fait que tout passe, que rien ne dure. Il nous parle de deux réactions extrêmes. Et il nous en parle notamment au chapitre 2. Et on va lire les versets 1 à 9. J'ai dit en mon cœur, « Allons, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. Même cela n'est que vanité. » Du rire, j'ai dit, c'est de la démence. Et de la joie, que vient-elle faire? Je me suis découvert le désir d'habituer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie s'il est bon pour les humains d'agir ainsi sous le soleil pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignobles, je me suis fait des jardins et des parcs, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. J'ai acquis des esclaves, hommes et femmes, et j'ai eu leurs fils nés dans la maison. J'ai de plus été grand propriétaire de gros et de petits bétails, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, précieux trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et raffinement pour les humains, des dames en grand nombre. Je suis devenu grand, et j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Et même ma sagesse demeurait avec moi. Donc l'auteur nous raconte un peu son expérience face à cette vanité. Il s'est lancé corps et âme ici, dans son travail. Et on voit que son activité était extrêmement diverse, n'est-ce pas? Il s'est lancé dans la construction, dans l'agriculture, dans l'élevage. C'était un entrepreneur qui avait plusieurs esclaves à manager. Il s'est aussi lancé dans l'art avec des chanteurs et des chanteuses. Est-ce qu'il dit danseurs? Maintenant, je ne me souviens plus. Mais bon, dans l'art en tout cas. Et le succès a été au rendez-vous pour cet homme. L'argent et l'or a été amassés. Il a eu un grand nombre de femmes. Bref, ça a été un grand consommateur. Il s'est réjoui dans sa consommation de la vie. Et voilà le bilan qu'il en tire quelque part. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail. Et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. Voilà ma joie, voilà ce qui a été ma récompense. Son travail a occupé tout son esprit, tout son temps, toute son énergie. Et ça lui a procuré joie et satisfaction. Ça a été le moteur de sa vie. C'est très réaliste, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit encore autour de nous. Mais à un moment donné, il a pris le temps de considérer tout ce qu'il a fait. Et il a regardé en arrière. Et voilà ce qu'il dit en regardant en arrière, verset 11. Puis j'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les faire. Et voici que tout est vanité et poursuite du vent. Il n'en reste rien sous le soleil. Ah, il y a l'aspect ici vraiment dramatique, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a construit s'est rendu compte, effectivement. Face à cette vanité, je me suis lancé corps et âme, mais au final, je dois reconnaître que ça ne sert à rien. Ce que j'ai essayé de trouver comme but, comme sens, comme satisfaction, s'est écroulé. Le beau soufflet qui vient de nous décrire dans ces quelques versets a fait plouf. En février 2012, 3 ans après la crise mondiale due au subprime, etc., le journal Le Monde a sorti un article pour parler du nombre de chômeurs en France qui avait augmenté de 648 500 chômeurs en plus, juste en plus. 648 500 en plus en 2012. Et cet article mentionnait en fait les effets collatéraux de cette crise et de ce chômage. C'est qu'en fait, il y a eu une augmentation du nombre de suicides en France à cause de cela. Il y a eu 750 suicides en plus dans une année, ce qui a porté le nombre à 10 780 suicides pour une année en France. Et fait remarquable, ce sont surtout les 35-65 ans qui sont suicidés. Que veut dire les actifs, ceux qui travaillent ou qui travaillaient, qui se sont suicidés. Et comme pour l'Ecclésiaste, quelque part, le travail pour eux était tout. Ils se sont lancés corps et âme. Toutes les promesses de satisfaction, de sens, de comblement du travail, en fait, se sont révélées être décevantes, fausses et insuffisantes face à la crise. Le travail donnait du sens et de la valeur, et c'est ce que la Bible appelle une idole, n'est-ce pas? Et quand la crise économique a montré la nature de cette idole, a montré ce qu'elle apporte, qu'elle creuse et vide, c'était le désespoir. Elle avait fait plein de promesses de satisfaction, mais elle laissait que le goût amer de l'absence de sens. Et n'ayant plus de valeur, alors ces hommes se sont suicidés. Et on a vraiment des textes qui disent « Je n'ai plus de valeur. Perte du travail, je n'ai plus de valeur. » Alors, la personne s'est suicidée. Le travail est devenu pénible parce que son produit ne dure pas. Mais le travail est devenu pénible aussi parce qu'il ne comble pas. Il ne comble pas. Étant déconnecté de son Créateur, l'homme a donné la place de Dieu au travail. Et le travail a rendu la vie de l'homme vide et vaine. Et notre auteur, l'Ecclésiaste, s'est alors lancé dans une deuxième réaction face au travail. Et je lis cela à partir du verset 12. Alors j'ai envisagé de voir la sagesse, ainsi que la démence et la folie. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu ceci, il reste quelque chose de plus à la sagesse qu'à la folie. Comme il reste quelque chose de plus à la lumière qu'aux ténèbres. Le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Pourtant, j'ai reconnu aussi qu'un même sort les attend tous deux. J'ai dit en mon cœur, le sort de l'insensé m'atteindra moi aussi. Pourquoi donc aurais-je été plus sage? Et j'ai déclaré en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car le sage ne laisse point de souvenirs perpétuels, pas plus que l'insensé. Au fur et à mesure que passent les jours, tout est oublié. Le sage meurt bel et bien comme l'insensé. J'ai donc haï la vie, car pour moi, l'ouvrage que l'on fait sous le soleil est mauvais, puisque tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï toute la peine que je me donne sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Pourtant, il sera maître de toute la peine que je me suis donnée en usant de sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à me décourager de m'être donné toute cette peine sous le soleil. Y a-t-il un homme qui est peiné avec sagesse, science et succès? Voilà que sa part est donnée à un homme qui n'a pris aucune peine. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de toute la peine et de la préoccupation qu'il s'est donnée sous le soleil? Tous ses jours ne sont que tourments, ses soucis le tracassent. Son cœur n'a pas de repos, même pendant la nuit, c'est encore là une vanité. Dans sa recherche de sens, l'auteur a été confronté ici à deux terribles constats. La réalité de la mort. On va être tous touchés par la mort. Quel que soit l'entrain dans lequel on se donne dans le travail, quelle que soit la sagesse que l'on donne dans le travail ou dans notre vie, on va être touchés par la mort. Et le deuxième constat, c'est qu'il y a là cette frustration de la succession. Je donne tout, je je m'investis, mais au final, c'est que pour un autre. C'est pour que quelqu'un d'autre en jouisse. La mort va tous nous toucher, autant le sage, qui dans le vocabulaire biblique est celui qui conduit sa vie devant Dieu, que l'insensé. Et dans le vocabulaire biblique, c'est celui qui conduit sa vie sans Dieu. La mort nivelle tout le monde. Alors à quoi bon vivre? À quoi bon se donner de la peine? À quoi bon travailler, effectivement? Et avec la mort vient ce deuxième constat. Que reste-t-il de mon travail pour la postérité? N'est-ce pas? On trie, on travaille, on fait des efforts. Il n'y a aucun souvenir. L'histoire, quelque part, est un rouleau compresseur qui nous oublie tous. Alors c'est vrai qu'il y a juste quelques personnes qu'on se souvient, n'est-ce pas? On va se souvenir de M. Eiffel grâce à la Tour Eiffel. On va se souvenir de François Mitterrand grâce à la place Mitterrand. Ou ce genre de choses, sérieux, mais à quoi bon? L'avenue Général de Gaulle, on est content d'y habiter, mais pour lui, qu'est-ce que ça change? Et pire, nous dit l'auteur, en fait, que va faire mon successeur? Comment va-t-il gérer mon travail? Et c'est la même chose pour nos enfants, n'est-ce pas? Comment vont-ils gérer ce qu'on va leur laisser? En fait, est-ce que même ce qu'on va leur laisser va être un cadeau ou pas? Est-ce que ça peut être source de bénédiction ou de malédiction, n'est-ce pas? Leur laisser beaucoup d'argent peut être une source de malédiction parfois, hein, malheureusement. Il y a un adage dans le monde des entreprises familiales qui dit ceci. La première génération crée, la deuxième développe et la troisième coule l'entreprise. Ouais. Et d'après les statistiques, c'est ça. Il y a seulement 30% des entreprises familiales qui survivent au passage de la deuxième génération. Seulement 30%. 12% qui survivent pour le passage de la troisième et seulement 3% qui survivent au passage de la quatrième génération. C'est chaud, hein? D'où est cette réaction de l'auteur? J'ai donc haï la vie. Car pour moi, l'ouvrage que l'on fait sous le soleil est mauvais puisque tout est vanité et poursuite du vent. À quoi bon? Et même verset 20 encore, j'en suis venu à me décourager, de m'être donné toute cette peine sous le soleil. Qu'est-ce que ça change? Et on peut venir alors à mépriser effectivement le travail. Non dans le sens qu'on ne travaille pas, mais où on considère le travail comme un mal nécessaire. Je le fais parce que je dois le faire. Je le fais parce que je dois avoir de l'argent pour nourrir, etc. Mais si on peut s'en extraire, on va le faire, n'est-ce pas? On va se mettre en congé maladie pour être un peu plus tranquille. On va jouer au loto pour ne plus devoir travailler. On va essayer d'en faire le moins possible. Et puis, s'il y a un problème, on va accuser le patron ou les syndicats ou les riches ou la société qui nous exploite, etc. Et même en tant que chrétien, on peut se laisser gagner par cette mentalité. Et cette notion de travail comme un mal nécessaire, ce n'est pas forcément chez les non-chrétiens qu'on le trouve. N'est-ce pas? Combien dans nos églises disent que le travail est une malédiction? Vraiment. Et c'est faux. Et pour reprendre ce que tu disais hein, tout à l'heure, Michel, c'est vrai que même on va spiritualiser cela en disant qu'on va au travail pour témoigner, mais pas pour travailler. Parce que travailler, ce n'est pas une bonne chose. Mais on y va pour témoigner. On oublie tout cet aspect d'amour, d'adoration et de bien. Mais où le travail est devenu pénible, nous dit l'auteur. Troisièmement, parce qu'il est devenu en fait un non-sens. Il a perdu de son sens. Et on vit, nous, là-dedans, en oscillant aussi dans notre culture, en tant que chrétien, entre la tendance à mépriser le travail et la tendance à idolâtrer le travail, comme notre auteur. On est dans ces deux choses-là. Tendance à mépriser le travail ou tendance à idolâtrer le travail. Question que je te pose, quelle est ta tendance à toi? T'en as une de ces deux. Voir les deux en même temps, mais t'as plus une des deux. Et une des deux doit être corrigée. Les deux doivent être corrigées, mais si tu as une tendance dominante, cette dominante doit être corrigée. Pas pour aller dans l'autre côté, hein. N'est-ce pas? Et la question, c'est comment? Que faire alors face à cela, face à ce terrible constat de cette vie sous le soleil, de cette réalité de vivre dans un monde en faillite. Comment vivre dans ce monde marqué par la vanité en tant que croyant? Et heureusement, l'auteur nous conduit dans une troisième voie. Regardez le verset 24. Il n'y a de bon pour l'homme que de manger et de boire, et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir sauf moi? Car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Mais au pécheur, il donne le souci de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité, la poursuite du vent. On a ici en fait une invitation qui va revenir tel un refrain à plusieurs reprises dans le livre de l'Ecclésiaste. Mais cette invitation à se réjouir. Jouis du travail. Jouis de ce que tu peux faire. Jouis de la vie. Jouis de tout ce que Dieu te donne de faire au milieu de la pénibilité. Au milieu de la pénibilité. Pas en t'extrayant de la pénibilité. On ne va jamais s'extraire de cela. On reste dans ce monde. Mais jouis de tout ce que Dieu te donne, te permet de faire. Et regardez ce verset 25. Qui en effet peut manger et jouir sauf moi? Je ne sais pas si vous avez la même traduction. Vous avez une autre traduction? Ouais. Sinon celui qui le reçoit de lui. Donc quelque part que toute joie vient de Dieu. Ça c'est une des interprétations. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre traduction? Parfois c'est traduit verset 25. Qui en effet peut manger et jouir sans moi? Comme ce serait en fait Dieu qui parlerait. En fait mon ami tu pourras jamais jouir de la vie sans ma présence. Ou est-ce que c'est le roi seulement qui parle, l'Ecclésiaste, sauf moi, mais parce que ce que j'ai me vient de Dieu. Et donc toute cette réflexion, en fait, ici, dans ces quelques versets, dans ces trois versets, en fait, que tout nous vient de Dieu. Apprendre à être reconnaissant. Apprendre à voir l'œuvre de Dieu, les dons de Dieu dans tout ce que j'ai. Arrêtez d'être français, quoi. Arrêtez de râler et apprendre à voir ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est agréable au sein de la pénibilité. Oui, il y a des raisons de râler, mais apprenons à voir l'autre côté aussi. Mais attention à ne pas pousser ce détachement trop loin. Tu vois, dans le sens qu'au final, tout ce qui compte, c'est ce qui nous attend. C'est vrai que c'est le point focal, d'accord ? Mais justement, ce qui nous attend, et c'est ce qu'on va voir, nous conduit à avoir une autre attitude ici et maintenant. Et qui donne de l'importance et de la valeur et du sens au ici et maintenant. Mais comme tu dis, si notre point focal est sur le ici et maintenant, en fait, on est en train de s'éloigner de Dieu. Et donc, il faut prendre cette distance. Mais cette distance ne sera pas en méprisant cette réalité, mais sera en regardant à Dieu. Et comme tu dis, t'as appris. Et c'est un apprentissage qui prend une vie. Parce que tu as appris ça au travail, mais actuellement, à la retraite, tu apprends d'autres choses. Apprendre à aimer d'autres personnes, à apprécier d'autres activités et à avoir ce recul, comme tu dis, cette distance, mais bien focalisée, pas pour mépriser, pas pour ignorer, pas pour rejeter, mais pour lui donner sa juste place et s'y investir avec sa juste place. Et même, pas seulement s'y investir, mais comme nous dit l'auteur, de jouir. Et ça, je trouve, c'est hyper important et c'est très encourageant pour nous en tant que chrétiens, n'est-ce pas? C'est que c'est vraiment une invitation à la joie. Et ça, c'est beau, moi, je trouve. Dieu nous appelle à être joyeux et à profiter, à nous réjouir de tout ce qu'il nous donne. Profitons de chaque instant qu'on vit. Réjouis-toi d'avoir une maison pour la décorer, etc. Réjouis-toi de pouvoir avoir ton jardin, réjouis-toi d'avoir du temps libre, mais réjouis-toi aussi de ton travail et de tout ce que Dieu te donne à vivre. Parce que c'est un cadeau et qu'il te donne, parce qu'il t'aime. C'est ça au final. Hein ? Mais n'en fais pas le point focal. Ne pense pas que ça va durer, que ça va te combler et que ça va te donner du sens. Mais c'est quand on comprend cela qu'on peut vivre la joie que Dieu veut nous offrir. Ouais, Jean, tu voulais dire quelque chose, excuse. Ah !
On va penser à créer des monastères évangéliques.
Ça s'appelle le monde. Donc voilà, l'Ecclésiaste nous appelle à être réaliste, n'est-ce pas ? Être réaliste. On vit dans ce monde qui est marqué par la malédiction. Et on ne va pas s'en extraire, on ne va pas échapper à cela. Et ça, parce qu'on vit dans ce monde qui a rejeté son Créateur. Mais ce côté beau et magnifique, c'est que le Créateur, lui, n'a pas abandonné ce monde. Et pas seulement pour nous sauver, et premièrement, il veut nous sauver, c'est vrai. Mais encore une fois, cette invitation ici à prendre soin, cette invitation à la joie. Une chose que je dis souvent à mes enfants le matin quand ils partent à l'école, c'est amuse-toi bien. Pas parce qu'ils vont aller à la récré, mais parce qu'ils vont en cours. Je leur dis amuse-toi bien. Pourquoi ? Parce que c'est à l'école qu'ils apprennent à voir les compétences que Dieu leur a données, entre autres. C'est dans le travail qu'on apprend à voir les compétences que Dieu nous a données. On voit que c'est un cadeau. Dieu nous a donné à chacun plein de compétences, n'est-ce pas ? Mais c'est seulement qu'on les met au travail, en activité, qu'on les voit et qu'on peut se réjouir de cela. C'est quand on est face à des équations, c'est ce que fait mon fils actuellement, mais qu'on voit toutes les capacités, n'est-ce pas, du cerveau. Cette abstraction que Dieu nous a donnée et qui est bonne. Et quelque part, refuser cela, mais quelque part, c'est un peu refuser aussi ce que Dieu nous a donné. On doit apprendre à aimer, travailler, à s'investir, à mettre en avant, en mettre en action les compétences que Dieu nous a données. Réjouis-toi, nous dit ici notre auteur. Travaille, même si tu sais que ça ne va pas durer, mais parce que c'est pour ton bien et c'est pour le bien de ceux que tu sers. Travaille, car c'est bon pour ta joie. Et voilà, pour reprendre ce recul dont tu parlais, Michel, c'est important, ça c'est la fin du discours de l'Ecclésiaste, hein, n'est-ce pas ? Il ne faut surtout pas l'oublier. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ça rappelle, Dieu est là. Dieu est là. Le Dieu rejeté par l'homme continue à être présent dans ce monde en faillite. Il continue à tendre sa main à l'homme pour le relever et lui donner du sens. À cause de cela, malgré la pénibilité, vivons notre vie devant lui. Vivons notre vie et dans tous ses aspects, dans toutes nos relations, dans toutes nos activités, dans la perspective de sa présence, dans la perspective de son regard, dans la perspective de l'éternité. Et n'extrayons pas notre activité, qu'elle soit professionnelle, rémunérée ou non rémunérée, n'extrayons pas notre activité de cette perspective-là. C'est dans la foi, dans ce Dieu-là, justement, dans cette confiance que lui, il sait, qu'il voit et juge, nous dit l'auteur ici, que notre monde, marqué par la pénibilité, trouve du sens. Et que toute notre activité trouve du sens. Autrement dit, l'auteur nous dit que le travail est et sera renouvelé seulement dans la relation avec notre Créateur. Mais encore une fois, cette relation avec notre Créateur ne nous extrait pas du quotidien, mais plutôt, il nous plonge dans notre quotidien. Et nous, on sait, par rapport à l'Ecclésiaste, avec le recul, que cette main tendue, n'est-ce pas, ça a été fait par excellence en Jésus-Christ. Et c'est par la vie de Jésus-Christ et par son sacrifice que le non-sens a été détruit, que la malédiction a été détruite, que l'aspect de non-comblement à nos vies a été détruit et que l'éphémérité de nos vies a été détruite parce que Jésus-Christ, lui, a accepté d'être détruit pour nous. Et c'est ça qui redonne du sens et de la motivation pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Motivation, satisfaction, sens sont rachetés et renouvelés par Dieu lui-même.